Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'hier. Peut-être avez-vous entendu cette phrase à l'occasion de repas en famille, de discussions entre amis, entre collègues, voire dans les médias. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'hier. Mais si on y réfléchit bien, ce ne sont pas les enfants d'aujourd'hui qui ont changé, mais leur environnement, la société, la place qu'on leur donne, la famille. Forte de notre expérience auprès des enfants et des familles depuis plus de 20 ans, nous avons pu constater une sorte de perte de repère des adultes lorsqu'il s'agissait de questions d'éducation. Accompagner les adultes, les parents, pour qu'ils prennent soin des enfants nous a donc motivés. Les accompagner et avoir la juste posture, à faire un retour sur eux-mêmes, sur leur propre éducation, sur leur propre histoire, à mieux comprendre ce qui est en jeu dans la relation, mais aussi les grandes étapes du développement du jeune enfant, de l'enfant et de l'adolescent nous a paru important. Nous avons donc créé l'espace Kanda Attitude. Nous accompagnons la parentalité de manière holistique avec de nombreux outils. Kanda Attitude, une parentalité consciente pour des enfants éveillés.
Coucou Emmanuel.
Bonjour Marie.
Comment vas-tu?
Alors, on se retrouve. Ça va bien, ouais. On se retrouve donc aujourd'hui pour échanger sur un sujet qui nous a interpellés et sur lequel on souhaitait réfléchir et lancer des pistes de réflexion sur le sujet de la tradition du paradigme. Et comment faire avec la tradition, notamment Congo, qui aujourd'hui est que la communauté essaye de réactualiser, et comment la diffuser à nos enfants, et comment ils peuvent l'imprégner dans ce monde d'aujourd'hui.
Effectivement. Ouais. Et lorsqu'on a reçu cette question, on en a discuté. Et on s'était dit que ce serait intéressant de partager notre réflexion, mais aussi notre questionnement, puisque c'est toujours en chemin. Notre réflexion n'est pas une fin, quoi, en soi, et continue d'évoluer lors de nos échanges, mais aussi de nos échanges avec le monde. Ça me fait rebondir sur le fait que ce monde-là est toujours en lien, en fait, avec nous. C'est des échanges continuels qui nous font progresser et évoluer, d'où l'importance de garder le lien. Tu vois, je crois que le lien est important. Alors, je sais pas, il y a plein de choses qui me traversent, là. Et quand je parle du mot lien, ça me renvoie à la naissance, ça me renvoie au cordon ombilical, ça me renvoie au fait, aux racines aussi, comment on peut être lié à nos racines, et l'importance en tout cas de connaître d'où on vient, qui nous sommes dès le plus jeune âge. Mais pour cela, il faut déjà pouvoir se connaître nous, en tout cas en tant que personne, entité propre, pour le retransmettre aux futures générations autour de nous. Donc, il y a plein de choses là qui me traversent, et ça me renvoie à l'ancrage, dans la tradition Congo, quand on parle du Muzizi, donc le chakra racine. Voilà, tout ça, c'est le socle, la base. On peut peut-être développer sur ce premier point qui est notre base, notre socle, nos racines, notre ancrage.
Oui, parce que lors de nos différents échanges, il y a des questions qui sont revenues, notamment ce sujet de comment dispenser la tradition aux enfants et comment faire avec le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour te rejoindre, c'est sûr que si nos enfants, on leur donne des bases sécures et compréhensibles et dans lesquelles ils pourront se sentir en sécurité et qui leur permettront d'aller vers l'extérieur et de découvrir le monde. Si on leur donne des clés pour décoder le monde dans lequel ils évoluent, on n'est pas obligé du coup de vivre. On peut élargir la communauté et on peut aussi se laisser notre enfant aller vers l'extérieur en étant certain qu'il ne va pas s'éparpiller. Parce que c'était un peu ça les questions, c'est ben, comment on peut faire dans ce monde qui diffuse par les médias, par les réseaux sociaux, par la musique, des valeurs qui ne correspondent pas à la tradition. Et c'est vrai que nos enfants, on ne peut pas les garder sous cloche, ils vont devoir à un moment donné aussi aller vers ce monde-là. Donc comment les armer, comment les aider pour qu'ils puissent... être leur propre boussole et surtout se diriger vers des choses qui leur font sens et qui animent les valeurs de la tradition Congo notamment.
Mmh. Ouais, totalement. Et tu vois, quand tu disais ça, l'image qui m'est venue, en tout cas ça m'a renvoyé à lorsque j'étais en formation d'auxiliaire de puériculture où j'ai étudié donc quelques notions de sociologie. Et on voyait quelques vidéos avec différents types de portages, notamment celui en Afrique. Ce qui en est ressorti, c'est que ces enfants qui sont, j'allais dire bambou, mais comment, je sais pas en français, attachés au dos avec le pagne, en fait, on peut apercevoir que ce sont des enfants qui développent plus de sécurité intérieure. Et donc, quand ils sont plus sécures intérieurement, ils sont plus ouverts sur le monde. Donc pourquoi ? Parce qu'ils sont près de leur mère, ils ressentent le battement de son cœur, ils ressentent son corps, la mère est en connexion avec son bébé qui fait que ben, il n'y a pas forcément deux couches, mais elle va sentir la manière dont son bébé va bouger pour comprendre qu'il va soit faire pipi. Donc en fait, il y a cette connexion, ce lien, il est tellement... voilà, sécure, qu'il pourra après se détacher de sa mère plus facilement et aller découvrir le monde. Et donc, ça me renvoie à cette idée de connexion, de lien, puis de détachement. Mais le détachement, ça ne veut pas dire couper le lien. Donc, ça ne veut pas dire couper de ses racines, couper de son paradigme, couper de son prisme, parce qu'on on distend un peu le lien et qu'on va découvrir le monde. Mais c'est vrai qu'il y a... cette notion au début de connexion, de reconnaissance. Et ça renvoie aussi au fait que transmettre nos valeurs, transmettre notre histoire, notre éducation, etc., passe aussi par le non-verbal, en tout cas. Que ce soit par le toucher chez un nouveau-né, que ce soit par le portage, que ce soit par le regard, enfin, tous ces sens, en fait, ça passe aussi par là, par le non-verbal et donc aussi par l'exemplarité. Comment on se comporte, en tout cas concernant la transmission pour nos enfants.
Pour aller dans ton sens, permettre à nos enfants de se diriger ou d'évoluer dans le monde de demain, ou en tout cas dans le monde qui leur est offert aujourd'hui, pour les armer, ça commence très tôt. Et comme tu l'as dit, ça commence dès qu'ils sont bébés. Voire même dès le ventre de l'enfant, autour de cette notion ben, d'ancrage, de sécurité. Parce que sans cette notion-là, l'enfant aura du mal à se diriger vers l'extérieur et en toute confiance et il sera moins armé. Donc pour nous, effectivement, pour te rejoindre Marie, la base vraiment, c'est de cet ancrage-là qu'on va pouvoir amener à l'enfant. Comment l'amener ? Effectivement, il faut déjà que nous-mêmes, on soit ancrés ou on soit en capacité de l'accompagner. Donc, une certaine connaissance de nous-mêmes, ça c'est important. Et après, c'est dans la relation, la qualité de la relation qu'on pourra avoir avec son enfant, c'est-à-dire ce que tu venais de dire, beaucoup, le non-verbal, la manière de le toucher, de le valoriser, de le porter physiquement et psychiquement. Ça, c'est important. Et petit à petit, accompagner l'enfant à découvrir son environnement et se détacher en toute confiance. Mais la notion d'ancrage, je te rejoins, est très importante. C'est une base. Comme cette image ben, d'arbre avec les racines, Déjà, l'arbre, pour s'élever vers le ciel et traverser les saisons, il faut que ses racines soient bien profondes. Et c'est lors de la petite enfance qu'on permet à ces racines-là de se déployer et d'aller bien profond dans le sol.
Et j'avais une question, toi qui t'y connais très bien, développement de l'enfant, psychomoteur, psychoaffectif, quel serait l'âge où l'enfant est vraiment dans sa phase de fusion et commence petit à petit à se détacher, en fait? J'aimerais bien que si tu avais des réponses pour amener aussi cette compréhension du développement de l'enfant. Je sais pas si ma question est claire, mais je sais pas si tu as compris.
Si, je vais essayer d'y répondre. En tout cas, quand l'enfant naît, il est en fusion totale avec son environnement, notamment sa mère. Il n'a pas conscience de qui il est. Et c'est-à-dire que sa mère, c'est sa projection de lui. Les objets, c'est la projection aussi de lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment en fusion avec son environnement. Petit à petit, notamment par le biais du corps, il va prendre conscience petit à petit. Ah tiens, c'est mes mains. Là, il y a quelque chose qui s'agite, c'est mes pieds. Petit à petit, il va prendre conscience qu'il a un corps. Et après, il va commencer vers, à peu près, ça commence, pas de bêtises, vers les 18 mois, à prendre conscience que sa mère a plus de son environnement et à se détacher psychiquement de sa maman ou de sa figure d'attachement, qui peut être aussi un papa. La figure d'attachement, c'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant et qui lui permet, qui répond à ses besoins. C'est cette figure-là qui va le rendre sécure, parce qu'il saura que s'il veut qu'on réponde à son besoin, cette personne-là sera présente, en fait. Et après, il y a un autre process qui est important, c'est l'apparition du jeu. Que l'enfant prend conscience qu'il est un être à part entière. Et ça, c'est autour des 1 an et demi, 2 ans. Et c'est souvent à cette période-là que l'enfant s'oppose. On appelle ça la phase du non, parce qu'il est en train de montrer, il veut montrer au monde qu'il est un individu à part entière, qu'il n'est pas le prolongement de papa ni de maman, et qu'il est jeu. Et après, tout ce process-là continue. Mais dans la petite enfance, il y a ces deux phases-là qui sont...
D'où l'importance... D'où l'importance de les accompagner et dans ce process, dans cette transition, de ne pas le prendre personnellement comme un affront qu'un enfant ne peut pas écouter, qu'il a la tête dure, etc. Mais vraiment comprendre, c'est pour ça que je posais cette question... pour avoir cette phase aussi en tête du développement de l'enfant. Et ce qui est drôle, c'est que il y a le jeu J-E qui apparaît à cet âge-là, mais aussi le jeu J-E-U, d'où l'importance aussi d'accompagner l'enfant dans ces jeux, où il va commencer tout ce qui est lié au jeu par mimétisme, prendre soin d'un bébé... passer la serpillière, nettoyer, jouer à la dinette, ce genre de choses. Et ça, c'est une phase importante pour les filles et pour les garçons. Il n'y a pas de jeu de filles ou de jeu de garçons. Là, il est en train de construire vraiment son identité, son monde, à travers le jeu J-E et J-E-U.
Le jeu, les jouets... C'est important parce que c'est comme si c'était un outil que l'on proposait à l'enfant pour qu'il puisse se découvrir et découvrir son environnement et lui. Parce qu'à travers le jeu, effectivement, il se structure, il expérimente et c'est important. Et un enfant qui évolue dans un environnement où il y a peu de jeux, alors ça peut être des jeux matériels, mais ça peut être aussi... comment l'adulte est en interaction avec lui. Un enfant qui sera dans un environnement pauvre, sur ce point-là, aura des failles au niveau de son développement. C'est vrai que la qualité de la relation et de ce qu'on peut proposer aux enfants est très importante.
Exact. Et effectivement, quand on parle de pauvres, on ne parle pas de d'argent, mais vraiment de ce qu'on peut apporter dans la relation. Et je donne un exemple concret. Moi, qui ai accueilli en protection maternelle et infantile, parfois des familles qui ne parlaient pas français, mais qui, pour elles, c'était un frein. Et se disaient, mais moi, je ne peux pas raconter d'histoire en français, ni je ne sais pas lire ni français, ni leur langue maternelle. Et je leur disais qu'il était possible aussi d'inventer des histoires, d'imaginer des histoires dans leur propre langue. Et ça permet aussi à l'adulte de se connecter, je pense, à son enfant intérieur, à son imagination, à ses mondes intérieurs, de se connecter à ça. Souvent, l'adulte n'ose pas jouer. Et je crois qu'il est aussi important que l'adulte, par le biais de l'enfant, en tout cas, se reconnecte à ça. Je crois que l'enfant nous permet vraiment de nous reconnecter à notre propre enfant, des fois ce qui nous a manqué, et aussi, par ce biais-là, de guérir cet enfant qui a eu parfois quelques manques. Et se reconnecter à cet enfant, à ce jeu, à jouer et à s'amuser.
Oui, tu as bien fait de reprendre le terme pauvre parce que, effectivement, on n'est pas obligé de donner des jouets déjà à profusion à l'enfant. Et ça peut être des choses très, très simples. Je veux dire, une cuillère en bois de cuisine peut se transformer en baguette magique. On peut détourner certains objets. Ce qui est important, c'est, je pense, surtout, c'est la qualité de la relation qu'on peut avoir avec l'enfant. C'est important qu'il puisse être en capacité de jouer seul, mais avant ça, il y a quand même une phase où il faut l'accompagner. Voilà, je voulais, c'était important pour moi de dire on n'a pas besoin du dernier jeu à la mode. Voilà, c'est surtout la qualité de la relation. On n'a pas besoin non plus d'en avoir à profusion, parce que pour certaines familles, tout ça, c'est un coût et ce n'est pas forcément évident.
Souvent, concrètement, beaucoup de familles ont pu faire ces retours ou ces constats que je lui ai acheté ce dernier jeu, etc. Mais lui joue avec la boîte du jeu, avec le carton.
Oui, le papier cadeau, en fait.
Exactement, avec le papier. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on y met dans la relation, notre implication. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours au taquet, impliqué, parfait, c'est pas l'idée. En tout cas, ici, ce qu'on transmet sont vraiment des clés, des éclairages. Il n'y a pas de parfait parent, et en même temps, si, je crois qu'on est tous parfaits pour nos enfants, on est les bons parents pour nos enfants. Et pour revenir à cette notion d'ancrage, ça renvoie aussi à l'incarnation. Et en tout cas, nous, dans notre croyance, dans l'histoire qu'on a choisi de croire, c'est que ces êtres qui s'incarnent sont des êtres compatibles, en tout cas énergétiquement, qui vibrent à une même fréquence et qui s'incarnent donc dans la famille adaptée. Donc c'est pourquoi vraiment l'idée, c'est pas de culpabiliser.
Oui, ça c'est important de pas culpabiliser. C'est parfois facile à dire et pas forcément évident de s'auto-réguler par rapport à ce sentiment, parce qu'on a envie du mieux pour nos enfants et on se sent responsable. Mais pour revenir sur la question du jeu, on a aussi des vies qui font que on travaille beaucoup, on a un rythme soutenu. Et que le soir, on n'est pas forcément disponible psychiquement pour aller jouer avec l'enfant. Mais c'est quand même, déjà, c'est important de lui dire. Et ce qui vaut mieux parfois faire moins de temps de jeu avec son enfant, mais plus de temps de qualité. Ça, c'est vraiment, quand je parle de qualité, c'est vraiment se sentir en interaction et présent dans la relation. Donc ça, ça me paraît important. Et par rapport à la culpabilité, je voudrais rajouter que c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'études autour du développement de l'enfant. Il y a plein de livres, il y a des nouvelles pédagogies, Montessori ou l'éducation positive, où on nous rappelle sans cesse et à bon escient que l'enfant est une personne, qu'il faut lui parler, un certain nombre de choses comme ça. En tout cas, moi, dans ma pratique quotidienne au travail, je me retrouve avec des parents qui ont tellement envie de bien faire. Déjà, ils sont un peu perdus parce que il y a moins la famille qui est là pour les aider ou être dans une espèce de transmission de comment ça s'était passé pour eux, ou de soutien pour eux quand ils étaient enfants, ou de soutien. Donc il y a beaucoup, quand on va sur internet ou dans les librairies, il y a énormément de livres, donc ils passent d'un livre à un autre, d'une méthode à une autre, et parfois, ils ont cette envie de tellement bien faire que ça les met en tension. C'est-à-dire, comme si les livres ou ce qu'ils avaient vu, c'était des recettes magiques. Et ça les met en tension. Et du coup, ils sont dans une envie de tellement bien faire que la relation, ils en oublient la relation avec leur enfant. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était un peu biaisé de cette tension-là. Ce qui est important aussi, c'est de se faire confiance. Comme tu l'as dit, on n'est pas parfait, mais on n'est pas de parfaits parents, mais on est parfait en tout cas en tant que parents avec ces enfants qui sont venus à nous. Mmh. Et de faire de son mieux, de se faire confiance, d'oser essayer des choses face à certaines situations, être dans la créativité. C'est pour ça que sur Canda Attitude, on avait posté une photo avec ce texte-là, « L'éducation est un art, pas une science », dans le sens où il faut vraiment, la notion de créativité est importante, d'intuition aussi, et de se faire confiance. Et que c'est pas une science parce que rien n'est écrit à l'avance, que chaque histoire est singulière. On voit même à l'intérieur d'une même famille, dans la fratrie, chaque histoire est différente d'un enfant à un autre. Et on peut qu'avoir des clés ou des connaissances de comment un enfant peut fonctionner de manière générale. Mais après, vraiment, chaque histoire est différente et il ne faut pas oublier de la vivre, de vivre cette rencontre-là. Mmh.
Ce qui m'est passé quand tu as parlé d'intuition, mais avant, tu avais dit autre chose. Se faire confiance, moi, ça me renvoie. Alors, je fais un parallèle avec la cuisine. Bon, moi, je vois des ponts un peu partout, mais parce que récemment, j'ai eu une conversation qui parlait du fait que beaucoup de traditions ancestrales transmettaient par l'oral. Et de ce fait, beaucoup de choses se perdaient. Et qu'il y avait aussi un bénéfice à avoir des livres pour retranscrire. C'est toujours une histoire d'équilibre, il me semble. Ce que j'apprécie dans la transmission orale, c'est aussi qu'il y a tous ces sens qui sont en action, c'est-à-dire on va écouter, on va regarder. On va regarder, par exemple, je parle d'une recette, comment elle se fait. Alors, on ne saura pas avec combien de grammes, etc. Mais on va sentir, on va toucher, on va goûter. Et ce qui fait qu'on va développer, en fait, on va être vraiment connecté à nos sens, à notre corps. Et lorsqu'on a un livre déjà tout écrit, on active notre compréhension, notre cerveau, il y a notre vue. Mais ça passe par l'intellect et peut-être un peu moins par le corps. Et de ce fait, on se monte plein d'histoires après dans la tête et ça devient un brouillard en fait dans notre tête. Et et on se coupe parfois de notre sensation et de notre corps. Et donc, c'est juste pour appuyer cette idée de cette intuition, revenir au corps. On peut dire des choses, on peut s'informer intellectuellement. Mais je crois aussi qu'il est important, en tout cas, c'est ce qui me paraît important, de ressentir aussi. Quand on lit ou écoute une information, de voir comment elle résonne à l'intérieur de nous et de nous faire confiance sur cette... Sur ce qu'on a capté dans nos corps. Est-ce que ça nous paraît juste, en tout cas pour nous, et l'histoire qu'on a avec notre enfant, nos enfants, ou pas ? Je crois qu'on a chacun notre vérité, mais vraiment de faire confiance à notre corps, qui, de façon générale, ne ment pas.
Oui, et pour ça... pour reprendre, mais on l'a déjà dit à l'occasion de cet échange, il faut se comprendre, se connaître,
exact.
Un minimum, avoir une connaissance de qui on est. Ça, c'est important quand on a des enfants, parce que pour éviter les projections et pour être dans une relation juste et équilibrée. Il me semble.
D'où toutes ces pratiques liées à jouer avec l'enfant, créer, que ce soit des histoires, des dessins. Quand l'enfant se pose et dessine, ça peut être aussi l'occasion de dessiner, de lâcher ce mental justement qui va dire « Ah ben non, je ne sais pas dessiner », etc. Mais de dessiner, de décrire tout ce qui passe sans qu'il y ait de sens. Et ça ramène vraiment au sens, aux sensations et au corps. À ce moment-là, en tout cas, quand on observe l'enfant et qu'on peut voir que lui est dans le jeu, dans la vie, dans la créativité, connecté à la création. Donc c'est là où moi, je trouve vraiment que les enfants sont de réels enseignants. Parce que... On a beaucoup à apprendre d'eux et c'est vraiment cet échange, ce lien. Je crois qu'on grandit avec notre enfant aussi. Donc ça renvoie à ce que je disais au début, le lien, cette interconnexion qui est important pour moi en tout cas de préserver.
C'est sûr que devenir parent, c'est initiatique pour aller dans ton sens. Et par rapport au lien et au fait qu'on grandit avec ses enfants. Ça, c'est sûr que... Parce que d'être en relation avec eux vient nous réinterpeller sur des sujets. Ça nous renvoie à nous, à notre éducation, à notre famille, aux lignées. Et parfois, ils viennent appuyer sur des failles ou des choses en nous qui sont mal assises ou qui nécessiteraient de revoir, de repenser ou de réinterroger. Et que d'en avoir conscience, c'est important. Sinon, on sera dans une relation en tension et dans cette relation en tension, on aura tendance à pointer du doigt l'enfant dans son comportement, mais finalement, il vient juste réinterroger des choses qui nous appartiennent à nous. Donc, arriver à faire la distinction de ce qui est de nous et de ce qui est de l'enfant, c'est vraiment très important.
Totalement. Donc voilà, je crois que, en tout cas pour moi, il y a une forme de boucle qui se boucle. Pourquoi ? Parce que j'en reviens à ce que je disais au tout début. C'est le lien, c'est aussi notre ancrage. Pour résumer, c'est aussi lorsque nous touchons, en tout cas de plus en plus, qui nous sommes, que nous sommes de plus en plus assis dans ce que nous sommes, nous pouvons être plus à même de bouger et nous ouvrir vers le monde. Donc, s'asseoir à l'intérieur de nous, ce n'est pas se couper du monde, ce n'est pas se couper... des autres, puisque nous sommes, en tout cas c'est ce que je crois, tous interconnectés. De ce fait, chacun a à prendre sa place, chacun a sa place, et chacun est en lien avec les autres. Et donc, pour nos enfants, je crois que c'est vraiment toute la nourriture qu'on peut lui donner est vraiment dans ce lien. En tout cas, il est vraiment à nourrir et à nourrir encore et encore.
Oui, un lien qui lui permettra de danser avec la vie et de se diriger vers ce qui lui correspond, lui fait écho et ce qui doit être aussi pour lui.
Ben, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Emmanuel.
Non, comme tu l'as dit, la boucle est bouclée. je pense qu'à travers cet échange, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses qu'on aura peut-être l'occasion de développer plus en détail, les unes après les autres. Mais de manière globale, voilà, ce qui, je pense, faut retenir, c'est cette notion d'ancrage qui est la base de tout. Et qui est nourri par le Zola. Et sans cet ancrage-là, l'enfant, l'être, aura déjà du mal à s'asseoir en lui, donc à être, et à aller vers l'extérieur et découvrir son environnement. Donc c'est vraiment une notion importante. Et en tant que parent, il est nécessaire d'être attentif à ce que nos enfants aient des bases, des racines bien implantées pour pouvoir évoluer demain dans ce monde si complexe.
Oui, totalement. Oui. Juste pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le Zola, c'est un mot kikongo qui est l'amour au sens l'amour inconditionnel. Donc voilà, petite parenthèse. En tout cas, merci pour cet échange. Ce fut un plaisir, comme d'habitude.
À très bientôt.
À très bientôt. Ciao.
Au revoir. À ton dos.
À ton dos.